Divergence FM, l'interview.
Bon, allez, un rendez-vous habituel, hein, n'est-ce pas, Serge? Serge, il vient nous voir régulièrement. Alors, des fois, c'est pas tout à fait régulièrement. Il y a des vacances, il y a des choses. Bon, enfin, quand même, dans l'ensemble, on se voit très souvent. Serge, c'est le représentant de la CGT 34. Nous sommes bien d'accord. Et la CGT 34, c'est la rentrée. Mais ça, vous n'êtes jamais sorti, en fait. C'est sous le temps. Il y a toujours de l'activité. Il y a toujours, hélas, beaucoup de choses qui fâchent et qui méritent qu'on s'en occupe. Alors, de quoi voulez-vous parler pour cette rentrée radiophonique sur les ondes de Divergence FM ?
Bonjour d'abord, oui, à bonjour. Toutes et à tous. Effectivement, on n'est jamais tout à fait sorti de l'activité sociale, puisque bon, nous avons eu cet été des annonces assez brutales de la part du président de la République. J'étais juste venu d'ailleurs le matin faire une interview et personne ne se doutait que dans l'après-midi, il annoncerait un certain nombre de mesures. Certaines qui ont fait beaucoup d'actualité, je pense à la question du vaccin et du pass sanitaire, mais d'autres qui malheureusement sont un peu passées inaperçues.
Peut-être à cause de ces autres actualités qu'on met en avant tout le temps.
Oui, mais qui sont tout aussi graves, et ce serait bien qu'on en parle aussi un peu, c'est-à-dire l'assurance chômage.
La réforme
de l'assurance chômage qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel, qui fait l'objet d'une opposition de l'ensemble des organisations syndicales, mais néanmoins qui devrait rentrer en application le 1er octobre. Et puis tout ce qui a pu être dit sur le dossier des retraites.
Le chômage et les retraites, ce sont de toutes petites choses négligeables, n'est-ce pas?
Voilà. Mais qui surtout nous inquiète fortement aujourd'hui, puisque les organisations syndicales ont été reçues la semaine dernière par Castex. Elles ont toutes dit qu'elles étaient opposées à la fois à l'assurance chômage et à ce que le dossier des retraites revienne
sur le tapis, on va dire.
Voilà. Et le porte-parole du gouvernement a dit ce week-end à la fête de l'humanité, face à Philippe Martinez, qu'il n'était pas impossible qu'effectivement des mesures soient mises en débat et en chantier avant même les élections de 2022. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont effectivement des sujets lourds, des sujets graves, puisque bon, contrairement à ce que dit le gouvernement, Le chômage est toujours très élevé, particulièrement sur notre département, avec près de 150 000 privés d'emploi, toutes catégories confondues. À titre d'exemple, pour qu'on se rende compte de ce que c'est, il y a 150 000 privés d'emploi, il n'y a par exemple que 18 000 salariés dans la fonction publique hospitalière. Vous voyez, quand on ramène...
Mais quand on fait des comparaisons...
Parce qu'autrement dit, les gens, vous savez, c'est plus 1%, moins 0,4, plus 0,2, on ne voit pas bien, mais c'est 150 000... personnes qui sont aujourd'hui totalement privées d'emploi. Il y a un peu plus de 110 000 fonctionnaires sur le département. Vous voyez.
Et puis il y a beaucoup de précarité d'emploi aussi. On en parle souvent avec vous. Il n'y a pas que le chômage pur et dur. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des petits boulots.
Qui travaillent à temps partiel.
Intérimaires, machin.
Mais de l'autre échelle, vous savez, il y a eu des bonnes nouvelles quand même à la sortie de l'été. On a appris que 37 entreprises du CAC 40 avaient dégagé plus de 50 milliards
de bénéfices.
Des bénéfices records. Sachant qu'elles ont par contre réalisé des chiffres d'affaires à la baisse.
C'est intéressant ça. C'est quand même, là aussi, à comparer les chiffres, comme vous venez de le faire pour le chômage et les agents hospitaliers, là, on peut comparer les chiffres, le bénéfice et l'emploi, par exemple.
Voilà, donc ça s'est fait là-dessus, mais c'est surtout, ça s'est fait sur autre chose. Ça s'est fait, ces bénéfices records, parce qu'il y a eu beaucoup d'aide publique. L'aide publique, c'est quoi? C'est de l'impôt et de la cotisation sociale.
Oui,
c'est de l'argent public.
On a du mal à quand on dit l'État aide, mais qui c'est l'État?
Voilà. Ah, c'est l'impôt de tout le monde et c'est la cotisation sociale créée par le travail. Et vous savez qu'il y a eu un ministre qui a trouvé assez honteux qu'on puisse donner 400 euros au plus nécessiteux à la rentrée scolaire.
Pour acheter des écrans plasma.
Pour acheter des écrans plasma. Donc vous voyez, on est toujours en train de stigmatiser le pauvre. Mais c'est pour mieux faire oublier que de l'autre côté, il y a ces milliards-là qui sont de nouveau des records. On n'a jamais vu ça. Des dividendes qui sont des records. Des patrons qui peuvent toucher 300 fois le salaire d'un ouvrier. Évidemment, ça, il ne faut pas en parler. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui un gouvernement et un patronat qui ont décidé de passer à l'offensive sur la question de l'emploi, sur la question des salaires, sur la question de nos droits sociaux. Et donc, c'est ça les sujets que nous, on veut porter rentrée avec une journée d'action le 5 octobre.
Voilà, et on avait parlé avec vous, on avait évoqué les 32 heures aussi, un projet que la CGT porte. Au moins, voudrait bien qu'on en dise, au minimum qu'on en parle.
Ben, on va en parler puisque c'est une campagne de long terme. Je veux rappeler que le mouvement syndical et la CGT qui a son origine portent la question de la réduction du temps de travail et de l'amélioration des conditions de travail depuis toujours. Mmh. Que c'est y compris une revendication qui est portée, on va dire, par le mouvement politique de gauche. Hein. Oui. Et donc quand on est de gauche, on est pour la réduction du temps de travail. C'est pourquoi nous avons fait part à monsieur le maire de Montpellier. Oui. De notre colère concernant le dossier des ATSEM et des 1607 heures.
Oui, alors c'est
nous allons être encore à leur côté demain dans la manifestation et dans le rassemblement.
C'est un dossier brûlant, on peut dire hein, ça. Mais le maire de Montpellier vous dirait que c'est pas de sa faute. Lui ne fait qu'appliquer ce qu'on lui dit d'appliquer. C'est ça, en gros, la défense de la municipalité.
C'est la défense de toutes les municipalités. Ouais. Moi, je pose alors une autre question. Si on n'applique pas la mesure, que se passe-t-il ?
Ah oui, est-ce qu'on ferme...
Voilà, je pose la question. Deuxième question que je peux poser, il y a des endroits où on a négocié des bons accords. Donc on peut aussi négocier des bons accords dans le cadre d'une mauvaise loi. Mmh. Et pourquoi on n'a pas, du coup, négocié un bon accord avec un service particulier que sont les ATSEM, puisqu'on leur ajoute du temps de travail, mais on leur ajoute aussi de nouvelles compétences. Et vous savez que ce qui génère beaucoup de risques psychosociaux, c'est la multiplication des tâches. Et donc là, on est bien dans ce cadre-là, sachant que le CHSCT, par ailleurs, a reconnu qu'il y avait un certain nombre de critères de pénibilité. Ben, nous, on demande à ce que la pénibilité soit reconnue pour ces femmes, parce que ce sont très, très majoritairement des femmes qui sont très mal payées. Enfin, le dernier élément, pour que les auditeurs ne se questionnent pas là-dessus, c'est qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, il y a des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale, qui travaillait un peu moins que le cadre légal, parce que c'était des accords qui avaient été obtenus. Mais ces accords avaient été obtenus pourquoi ? Tout simplement parce que les missions avaient évolué, mais que les salaires, eux, n'avaient pas évolué, et qu'on là, on parle de catégories de salariés qui sont des catégories C, c'est-à-dire les moins payés, sachant que le point d'indice a été lui aussi raboté pendant 10 ans, et qu'en fait, ces accords qui avaient été obtenus, en particulier sur le temps de travail, qui pouvaient donner lieu parfois à des congés supplémentaires, eh bien, c'était dû pour récompenser finalement ou compenser un travail qui devenait de plus en plus dur, de plus en plus complexe, avec des salaires qui, eux, n'évoluaient pas. Donc, on était dans ce cadre-là. Effectivement, le gouvernement, du coup, passe avec la loi du SOPT et veut tout balayer, alors qu'il nous a dit, par contre, vous voyez, il fait l'inverse de ce qu'il a fait pour le privé. C'est-à-dire que dans le privé, pour balayer les accords qui étaient les mieux-disants, c'est-à-dire ceux des branches dans les conventions collectives, il a tout renvoyé à la négociation en bas d'accords d'entreprise. Mais dans les deux cas, par contre, la logique, c'est la même. Hein. C'est toujours tiré vers le bas. Donc oui, la réduction du temps de travail, elle s'impose. On voit bien avec la période de pandémie mondiale qu'on vient de vivre.
Qu'on est en train de vivre encore.
À vivre différemment. Et les 32 heures, on aura l'occasion d'y revenir. C'est bon pour l'emploi. C'est bon pour les salaires. C'est bon pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et aussi, c'est bon pour la planète.
Pour la vie familiale aussi, tout simplement.
Le CO2. Puis c'est, oui, mais c'est bon pour tout le monde. Et puis, puis on est confronté quand même à un défi majeur, qui est le défi du plan d'emploi dans notre pays. Il faut quand même peut-être pas trop y renoncer. Et puis le défi environnemental. Et quand on concentre toute l'activité sur deux métropoles, sur notre région, 60% des offres d'emploi qui sont créées sur la région sont créées ou à Toulouse ou à Montpellier, ouais. Et on voit ce que ça veut dire en termes de transport et de nuisances et de pollution. Et donc, effectivement, la réduction du temps de travail, ça peut être une bonne réponse aussi pour ces problématiques de transport et de nuisances environnementales. Mmh. Et en tout cas, c'est le projet que nous portons. Donc les 32 heures, sans perte de salaire, 4 jours de travail et 3 jours de repos dans la semaine pour effectivement pouvoir se consacrer à autre chose, et en particulier à sa vie de famille. Et on voit bien que nos enfants, avec tout ce qu'ils viennent de vivre, ceux qui continuent aujourd'hui à vivre dans cette rentrée scolaire particulièrement difficile...
Oh, c'est dur, hein.
Ils auraient bien besoin qu'on s'occupe d'eux.
Et puis, ces personnels qu'on va leur demander de faire en plus des activités, mais ils ne sont pas formés pour ça. Enfin, je ne sais pas. Il y a des choses un peu bizarres. Et puis, on manque beaucoup de surveillants aussi. Et on parle, moi j'ai entendu au rectorat, on parlait d'embaucher des services civiques. Mais ce n'est pas ça, un service civique, non ?
Non, mais on est toujours dans répondre aux besoins avec sans mettre en face les offres d'emploi. Mais si on en reste à la mairie de Montpellier, mais si vous recevez un jour, il faudrait poser la question sur le fait qu'effectivement de demander de faire aux ATSEM le travail des animateurs.
Oui, c'est pas très logique,
mais du coup, on n'embauche pas les animateurs, qui sont bien souvent des étudiants. Oui. Et donc, quelle est l'économie réalisée pour la mairie ?
Bah, écoutez, on
verra. J'ai une petite estimation.
Oui, on posera la question à Michael Delafosse quand il viendra nous rendre visite, parce qu'il vient régulièrement.
Là, moi, je l'invite, s'il nous écoute, à recevoir les organisations syndicales et ces personnels qui méritent, vis-à-vis du boulot qu'elles font pour les mômes, pour l'éducation nationale et aux côtés des personnes d'éducation nationale, elles méritent.
Au moins qu'on les écoute.
Elles méritent d'être reçues parce qu'elles ont des propositions à faire et qui peuvent permettre de sortir par le haut de la situation actuelle.
Bon, écoutez, merci. Merci. Et on se revoit régulièrement. Donc,
Et le 5 octobre, manifestation dans tout le département pour l'emploi, les salaires, les services publics et la protection sociale. 10h30, rendez-vous devant la CEPAM à Montpellier.
D'accord.
Cours Gambetta. Rendez-vous à 10h30 à la Bourse du Travail de Béziers. Rendez-vous à 10h30, place de la mairie à 7, en intersyndicale, CGT, FO, FSU et Solidaire. Toutes et tous ensemble, soyons très nombreux. Et puis le 1er octobre, ce sont les retraités qui se mobiliseront, puisque vous le savez, de nouveau, leurs pensions n'ont pas été augmentées, alors que la CSG, elle, leur impute du pouvoir d'achat.